Tous les jours à partir de 9h, l'équipe de Café Service se met entièrement à votre service. Santé, consommation, droits du citoyen, éducation, conseil au monde rural. Les spécialistes répondent en direct à vos questions. Avec ONG partenaires, l'emploi, le conseil du jour et service plus, trouvez des pistes simples pour améliorer la vie de tous les jours. Au Café Service, l'émission libre au service de la radio de la paix.
Nous avons dans ce studio Guylain Maléré, juriste, avec nous. Bonjour, maître, oui. Comment on peut t'appeler juriste, oui. Voilà, alors nous parlons avec vous de la destruction méchante. Quelles sont les sanctions prévues par la loi? Et d'abord, c'est quoi une destruction méchante? Parce qu'on entend souvent parler.
Oui, merci beaucoup, J.R. Lungembo. Je vous salue moi-même, je salue les auditeurs de Radio Capi. Alors, dans le concept destruction méchante, nous avons dedans plusieurs autres verbes. À part l'action de détruire elle-même, il y a aussi l'incendie, le fait d'incendier méchamment, le fait de renverser méchamment quelque chose qui doit être debout, le fait de dégrader quelque chose, le fait d'abattre quelque chose qui est censé être aussi en position debout, enraciné dans le sol, et le fait de mutiler quelque chose qui est censé rester dans son état complet. Alors c'est toutes ces situations-là qui constituent la destruction dont parle la loi.
Mais toujours avec intention de nuire.
Absolument, l'acte doit être fait méchamment, avec l'intention de nuire, l'intention de causer du tort, pour qu'il soit sanctionnable. Autrement, c'est un accident, c'est une imprudence, qui elle aussi emporte un genre de responsabilité, mais qui n'est pas celui prévu ici par la loi pénale.
Donc j'imagine que ce préjudice causé, ce préjudice est souvent sanctionné. Alors quelles sont les sanctions prévues par le législateur congolais à ce sujet?
Ok, très bien. Si vous permettez, J.R., je voudrais d'abord dire un mot sur ce qui peut être faire l'objet de destruction. Parce qu'on parlait de destruction méchante, eh bien ça peut porter sur des éléments ou des objets divers qui passent par les bâtiments, les ponts, les digues, les chaussées, donc les routes, les chemins de fer, les machines, les appareils télégraphiques, les constructions, bâtiments appartenant à perso à autrui, les tombeaux, comme nous voyons ici chez nous souvent, les monuments, les statues, les objets de décoration publique, les arbres même, les récoltes, les animaux peuvent être détruits, les animaux domestiques, pardon, appartenant à autrui, okay. Etc., etc. Donc tous les biens meubles et immeubles.
Oui, parce que généralement au Congo, les gens pensent que, disons, la destruction méchante ne concerne que les maisons. Les maisons et aussi les tombeaux.
Et tout à fait, sont les cas les plus connus, oui, mais les animaux aussi peuvent être détruits, les arbres aussi. Quelqu'un a son arbre fruitier, par exemple, vous les détruisez méchamment.
Et donc, alors, quelles sont les sanctions prévues par le législateur?
Oui, hier, parlant des sanctions, le législateur a prévu que les sanctions soient modulées sur la nature de l'objet qui est détruit. Alors, les cas qui nous semblent les plus graves sont ceux prévus à l'article 110 du Code pénal, qui punit d'une peine de prison, donc de servitude, de 5 ans au maximum, et d'une amende, le fait de détruire ou de renverser, de dégrader les chaussées, donc les routes, les ponts, les bâtiments, donc les maisons, et autres constructions appartenant à autrui. C'est le cas le plus fréquent.
Donc, 5 ans.
5 ans maximum, donc vous pouvez avoir 5 ans comme ça à passer en prison.
Ouais.
Alors le cas qui suit, c'est celui qui est prévu à l'article 111 du même code pénal, qui dit que s'agissant des tombeaux, dont on a parlé tout à l'heure, des monuments, des statues, etc., et d'autres objets de décoration publique, eh bien là, la peine en cas de destruction va de 1 mois de prison à 1 année de prison, ainsi qu'une amende qui sera décidée par le juge.
Oui.
Ensuite, à l'article 112, on prend le cas des arbres et récoltes, quelqu'un qui a planté son champ, etc., vous le détruisez méchamment, et là, c'est les mêmes peines que pour ce qui est des tombeaux, monuments, etc., c'est-à-dire 1 mois à 1 an. Enfin, il y a
l'article 113.
L'article 113, oui, 113 parle de toujours des récoltes, de autres biens immeubles, mais sans intention méchante, comme vous avez dit tout à l'heure.
Voilà.
Là, on a détruit sans intention méchante, mais par imprudence, n'est-ce pas, par défaut de prévoyance, alors à ce moment-là, la peine est vraiment réduite, c'est 7 jours au maximum, ainsi qu'une petite amende. Alors la destruction d'animaux, parce qu'on voit les gens lapider les chats d'autrui, les chiens.
Mais comment reconnaître que ces déchets-là ne révèlent un caractère sans intention? C'est difficile, hein?
Oui, c'est là le travail des acteurs judiciaires, justement. D'abord, ça commencera par les inspecteurs, les OPJ, qui vont enquêter et qui vont poser des questions, connaître les circonstances dans lesquelles la destruction a été commise, et c'est eux qui font rapport au parquet. Et le parquet instruit de nouveau le cas, et s'il se rend compte que c'est vraiment établi, il amène le tout devant le juge en disant au juge, dans ce cas-ci, il s'agit d'une destruction sans intention méchante, et dans celui-là, l'intention méchante est avérée. Le juge, de nouveau, instruit le dossier, et s'il en est convaincu, il condamne. Donc, ça ne se fait pas automatiquement.
Guylaine Allaire, je prends l'exemple d'un locataire qui vit avec son bailleur.
Oui.
Alors, à l'acquisition de la maison, donc juste au début du contrat, je crois qu'il y a quand même un PV de réquisition. Un PV, je ne sais pas comment on appelle ça, un début pour l'état des lieux. Alors, à la sortie, donc, à la fin du contrat, je crois qu'il y a encore un autre PV, et les constats qui est fait pour constater s'il y a eu usure, de quelle manière, de manière récente ou de manière un peu... Alors, dans ce cas-ci, si aujourd'hui les bailleurs déclaraient un cas de destruction méchante et qu'il s'agissait par exemple d'une usure normale, des choses, par exemple le ciment ou encore les vitres qui ont été cassées.
Vous avez toujours des cas d'école, hein,
dans ce cas-ci.
En réalité, dans ce cas-là, c'est chose
dans lequel j'étais effectivement aussi.
Ah bon, oh là là. Ouais. Mais après, en réalité, souvent, ces cas-là sont réglés déjà par le contrat. Voilà pourquoi il est conseillé d'avoir un contrat écrit lorsque on prend en location une maison. Et là-dedans, il est dit clairement que la garantie locative, qui ne peut pas être affectée au paiement des loyers non payés, mais elle est réservée comme garantie justement à la réparation des dégradations qui peuvent avoir été faites à l'immeuble ou à la maison louée. Donc, ces situations sont déjà réglées par le contrat lui-même. Le bailleur est censé défalquer du montant du loyer, tout ce qui est nécessaire à la réhabilitation de la maison, de sorte à ce qu'elle puisse être remise dans son précis état, comme on dit. Donc, là, le problème ne se pose pas. On ne peut pas parler d'une destruction, parce que là, c'est une usure, comme vous l'avez dit. L'usage entraîne toujours une usure. Et donc, il est prévu que lorsqu'il y a une usure au détriment du bailleur, le locataire puisse en supporter les frais. Donc, nous ne sommes pas ici dans le cas d'une infraction, où l'infraction, elle, consiste en une violation d'une loi, n'est-ce pas, de manière, disons, générale et abstraite. Hein.
Oui, parce qu'il y a beaucoup de bailleurs aujourd'hui, il faut prendre que ces cas-là, qui utilisent peut-être abusivement, ou peut-être à tort, l'infraction de destruction méchante, quand il s'agit de l'usure, c'est-à-dire de l'usage au quotidien de la chose, et puis finalement, par rapport au temps, il y a eu usure. Mais là, à la fin du contrat, quand ils avancent comme, je sais que c'est à tort, et généralement, les juristes ne les aident pas. Des fois, on porte l'affaire en justice, même alors que ce n'est pas un dossier qui devait être traité en justice.
Bon, vous savez, il y a des cas qui sont assez limites, hein, entre l'usure normale et la destruction. Vous savez, il y a certains bâtiments, par exemple, où il n'est pas bon d'effectuer certains travaux, dans des appartements pilés du pont doux. Je sais pas moi, installer des machines dans la maison d'autrui lorsqu'elles sont en train de vibrer. Vous avez du plâtre qui s'arrache des plafonds, etc. On n'est plus dans le domaine des usures, on est là dans le domaine de la destruction. Et très bien, on peut même vous faire appliquer la disposition 113, l'article 113, sur la destruction peut-être
de 7 jours.
Oui, 7 jours si c'est fait de manière non méchante.
081-890-63-94, c'est pour les appels, et le 081-070-20-50 pour les SMS.
Votre connexion internet est trop lente? Radio-Okapi.net vous propose un service gratuit. Les alertes mail. Toute l'actualité de la RDC, le sport, la politique, l'économie, la culture et les offres d'emploi. Faites votre choix, vous recevrez chaque soir les infos dans votre boîte mail. Les alertes mail, c'est gratuit. Radio-Okapi.net à votre service.
John Peter, vous êtes ici, bonne arrivée et bonjour.
Oui, bonjour, monsieur le journaliste. J'ai une seule préoccupation qui me laisse toujours perplexe. Prenons un peu le cas de ceux qui ont des documents cadastraux et ont construit sur des terrains lotis par un service de l'État à bonne et due forme alors. Alors, Est-ce que des pareilles personnes peuvent-elles plutôt se plaindre de destructions méchantes s'ils voient à une époque donnée leur maison être rasée par un autre service de l'État? Si oui, comment traduire un service de l'État auprès de son employé qui est le même État? C'est ça ma préoccupation.
Voilà, bonne préoccupation, M. John Piquet. Nous rappelons que vous êtes à Issiro et nous faisons un grand coucou à tous ceux qui nous suivent à partir d'Issiro. Guilhem Aléré.
Cette situation est très délicate parce qu'on a eu des cas comme ça, où des personnes effectivement vont auprès des services de l'État, administration foncière, obtiennent des documents et le lendemain, le même État vient avec des bulldozers cassés.
Voilà.
Alors la question c'est de savoir si c'est une décision méchante. Bon, cette question, la Cour suprême de justice s'est déjà penchée. Et là, considérer qu'on ne sont pas établis hein, les infractions, les hypothèses de destruction méchante à l'égard d'un agent qui agit en vertu de ses prérogatives résultant de la puissance publique, hein, n'est-ce pas, par exemple, et qui agit conformément à la décision du gouvernement. Vous voyez, ça veut dire qu'à ce moment-là, on considère que c'est l'État qui couvre la responsabilité de l'agent. L'agent n'a fait qu'exécuter un ordre officiel de destruction. Il ne peut donc pas se retourner contre l'agent qui est venu. Par exemple, parfois ce sont des arrêtés du gouverneur de la ville, etc. On ne peut pas se retourner contre les agents qui sont venus exécuter de telles mesures parce qu'ils n'ont fait qu'obéir à l'ordre de la RSI, à l'ordre du gouvernement. Dans ce cas-là, on ne peut pas se retourner contre un tel agent, mais on peut initier effectivement des procès contre l'État pour... par exemple, obtenir des dommages et intérêts dans la mesure où il s'agit souvent des acquéreurs de bonne foi. La personne a acheté auprès du conservateur des titres immobiliers, a obtenu des titres, et le lendemain, on lui dit que ce fonctionnaire de l'État a mal fait, n'aurait pas dû lui délivrer ces titres. Bon, c'est l'État qui établit la légalité dans ce cas-là, qu'est-ce qui est régulier, qu'est-ce qui n'est pas régulier, mais il ne faut pas que l'État s'enrichisse sans cause, parce que ces gens-là ont dû payer l'État pour obtenir ces espaces, etc. Eh bien, l'État doit restituer ce qu'il a donc perçu indûment, et non seulement ça, mais il doit dédommager ces personnes qui, de bonne foi, se sont adressées au service de l'État à habilité et qui ont reçu des papiers, apparemment, en ordre. Et voilà un peu comment cela doit se passer. C'est donc des dédommagements sur un plan civil.
Parce qu'il y a l'État qui s'est impliqué, comment alors porter plainte? Parce que là, c'est le problème. Généralement, l'État, il se passe en gourou.
Non, ne vous en faites pas. Il y a des gens qui gagnent, j'en connais, qui gagnent des procès contre l'État ou contre des services publics et ils obtiennent gain de cause. Le problème, c'est au niveau
de l'exécution. Le problème,
c'est au niveau de l'exécution plutôt, de ce jugement-là. Vous pouvez avoir un bon jugement, un bon et du bon, mais comment exécuter contre l'État? C'est difficile. Mais on peut quand même attraire l'État en jugement.
Oui, parce que vous avez parlé des dommages et intérêts, généralement, parce qu'il s'agit souvent de cas d'expropriation, donc l'État qui veut exproprier un terrain, disons, qu'il y ait des indemnités, que les gens ne pas payer. Alors là, c'est peut-être sur un autre terrain. Mais, vous pouvez nous donner exactement les éléments indispensables pour déterminer vraiment un cas de destruction des centres. Mis à part l'intention de nuire,
oui.
Quels sont d'autres éléments?
Alors, l'autre élément majeur de cette infraction, c'est que le bien détruit doit appartenir à autrui. Donc, on ne peut pas détruire méchamment son propre bien. Parce que sur son propre bien, on a le droit d'en user, d'en abuser comme on veut. Mais il faut que ce soit un bien d'autrui sur lequel quelqu'un d'autre détient un droit légitime. Voilà donc les deux éléments majeurs qui rentrent en compte dans les cas d'infraction de destruction des champs.
Alors parlons maintenant de plainte, parce que c'est vrai, on est victime, on peut être, le bien m'appartient, je suis victime de ces cas de destruction des champs, comment me plaindre et auprès de quelle juridiction?
Alors, ce que nous disons souvent à la population, c'est qu'il y a d'abord une justice qu'on appelle de proximité, qui est exercée par les OPJ. Les OPJ sont les officiers de police judiciaire que l'on retrouve dans tous les postes de police, sous commissariat
de la maison,
ça sont les proches. Oui. Si vous allez vers ces gens-là, ces acteurs judiciaires, eh bien c'est plus facile de les atteindre et elles prennent en charge les enquêtes et consignent tout ce qu'elles constatent sur des procès verbaux, l'IPV, qui peuvent vous aider à aller plus loin dans la procédure. Vous pouvez aussi, si vous êtes informé, aller au parquet le plus proche où il y a des inspecteurs judiciaires. ce sont des OPJ, mais qui, eux, sont directement rattachés au parquet. Bon, si vous ne voulez pas, vous êtes encore bien informé, vous pouvez aller directement voir les magistrats du parquet, donc le procureur de la République. Il y en a, je crois, dans chaque
district.
Oui, district, là, vous pouvez en trouver. Eh bien, à ce moment-là, le parquet se charge de rechercher pour vous les éléments dont nous venons de parler, pour constituer l'infraction, pour présenter un dossier solide devant le juge. Mais si vous voulez aussi, vous pouvez enjamber l'étape de l'OPJ, l'étape du parquet, et aller directement devant le juge vous-même. C'est ce qu'on appelle la citation directe. Vous faites un procès directement devant le juge et vous amenez tous les éléments de preuve qui sont à votre position, là-bas, les témoins et consorts. Et dans les cas d'espèce, il s'agit du tribunal de paix. Vous allez donc auprès du tribunal de paix de votre ressort.
Mais la citation directe, en est-il, ça suit directement de l'arrestation ou bien de la comparution, d'un mandat de... parce que nous avons vu dans certains cas où il y a eu des citations directes et la personne a été directement mappée.
Bon, je suis informé. Bon, il y a des cas. Généralement, les magistrats ou les inspecteurs judiciaires agissent ainsi lorsque ils ont l'impression que l'auteur présumé des faits a tendance à se soustraire à la justice, à fuir, etc. Alors, à ce moment-là, ils ont les droits, c'est la loi qui leur donne le droit de le prendre d'abord par mandat d'amener, donc de le forcer à comparaître devant le magistrat. Et s'ils considèrent que pour une autre raison relative à l'enquête, il faut le maintenir en état de détention, à ce moment-là, ils font ce que vous avez appelé le mandat d'arrêt provisoire. Mais ce n'est pas systématique, parce qu'il faut le savoir, dans notre constitution, il est dit que la liberté, c'est le principe, hein, et la détention doit être vraiment exceptionnelle. Et donc, généralement, quand on vous invite, hein, c'est par des convocations que ça commence. Dès que vous répondez à la convocation ou au mandat de comparution, il n'y a pas de problème, on vous attend. Vous avez aussi le droit de vous défendre et de dire, par exemple, qu'il y a une confusion, ce n'est pas vous qui avez détruit la récolte, qui avez détruit la maison, etc.
Et voilà. Alors, il est dit clairement que la compétence et les droits et l'exception et la règle. Mais alors, nous avons vu, il y a des policiers qui ne sont ni auxiliaires de la justice, ou encore d'autres, mais qui font la loi, parce que ils viennent arrêter même certaines personnes pour des cas de destruction des champs.
Mais hier, je crois que là, c'est une thématique vraiment pour une autre émission.
Tout à fait.
Qui peut procéder aux
la compétence et le droit.
Tout
et l'accès
au capi-service, c'est une source intarissable de sujets, vous le savez. Donc, on pourrait peut-être en parler.
Ça nous a fait déjà une accès à le sujet. Ezekiel Moussi de Goma, au Nord-Kivu. Bonjour, Ezekiel.
Bonjour.
Et merci de nous rejoindre. Et quelle est votre préoccupation?
Oui. Bon, c'est juste comme j'ai dit, on est aussi en 2009 victime d'une destruction méchante chez Goma.
Mais qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'était passé?
Il y a des inconnus qui étaient venus sur la parcelle, prétendant que la parcelle leur appartient, alors que la parcelle leur appartient depuis 1996, et ils sont venus en 2009 disant que le service du cadastre nous a octroyé la parcelle. Bon, on leur a demandé maintenant. Où est le document, où est la lettre que le cadastre vous a fait? Bon, ils n'ont pas donné ça. On nous a demandé leur document de la parcelle, ils n'ont pas donné ça. Et jusqu'à présent, négocié au niveau du tribunal, mais ils n'ont pas de documents, disons, de la parcelle.
Voilà, alors une bonne préoccupation, Guillaume Aléré.
Non, c'est formidable. Voilà un cas d'illustration qu'on nous donne sur notre thème d'aujourd'hui. Il s'agit là vraiment d'un cas typique de destruction méchante. Des gens qui viennent s'installer sur les terrains d'autrui, détruire les constructions qui avaient déjà été faites au motif qu'elles-mêmes ont obtenu des titres. Vous savez qu'on ne peut pas superposer des titres. Dès que l'État octroie des droits sur un terrain à une personne, ce terrain est à lui et ne peut plus délivrer d'autres sur le même terrain. Et donc, en venant comme ça, ils ont effectivement fait non seulement la destruction méchante, mais il y a un cas d'occupation illégale d'un terrain d'autrui. Alors, ça me fait d'ailleurs penser à un autre cas, hypothèse de destruction dont on n'a pas parlé, c'est les déplacements des bornes, enlèvement ou déplacement des bornes. Ça aussi, c'est mis dans les hypothèses de destruction méchante, ça c'est l'article 115, où le fait d'aller sur un terrain d'autrui, où on a déjà implanté des bornes pour délimiter clairement un terrain, vous les arrachez, ou vous les déplacez pour voler,
juste quelques
centimètres, et bien vous êtes dans la destruction méchante, et vous pouvez être...
Et là également, vous êtes coupé de combien, selon le
oui, là on est à 5 ans maximum.
5 ans, donc oui. Là nous sommes à l'article 110.
Oui, et même hypothèse que l'article 110, mais ça c'est l'article 115. Donc c'est la même peine, hein, la même peine que celle prévue à l'article 110. Donc on considère ça aussi comme un cas grave, d'aller troubler les droits de propriété de quelqu'un sur son sol. Là. Donc vous comprenez, hier, que ça, ces gens-là se sont rendus compte, en fait, que se sont rendus coupables de 3 infractions. La destruction méchante, l'occupation illégale, Et qu'est-ce que je disais là? Je crois qu'il y en avait, oui. Destruction méchante, occupation illégale, et puis, bon, on peut trouver d'autres, évidemment.
D'accord. Alors, quand vous parlez de 5 ans, de prison, c'est 5 ans ferme?
Oui, quand le juge vous condamne au maximum, quand on dit 5 ans au maximum, c'est-à-dire le juge peut donner moins, selon la gravité, la manière dont vous êtes comporté. Mais s'il vous donne 5 ans de prison, c'est 5 ans de prison ferme. Bien entendu, il y a d'autres dispositions qui prévoient la libération conditionnelle lorsque vous avez accompli au moins un quart de la peine et que vous êtes bien comporté dans la prison, etc., etc. On peut voir comment vous accorder.
Mais à quoi vos propos, ce n'est pas quand même une petite infraction.
Absolument, la destruction méchante, les gens ne se rendent pas compte de la gravité des choses. Il y a une anecdote, on raconte qu'à Lemba, il y a un monsieur qui avait comme ça battu les chats d'un voisin, qui était un chat de race auquel le voisin tenait. Il a été étonné de se voir attrait en justice, un procès avec des gens en tombe de toge noire, etc. Il semble qu'il s'est exclamé « Nyonso, kakapon, nyaou !» Mais en réalité, bon, écoutez, c'est la loi est dure, mais c'est la loi.
Tout à fait, parce que nous voyons ça au quotidien, des enfants qui poussent des chiens, des trouilles. Hein. Alors, il faut vraiment faire attention aux parents, il faut éviter à ce que vos enfants puissent tomber sous le coup des destructions méchantes. Sinon, si ce n'est pas l'enfant, qui sera en conflit à justice, ça me fait une fausse contrapie. Alors, Rigen Moustassa de Lubumbashi, au Katanga. Bonjour, Rigen. Bonjour, Rigen.
Bon, je voulais me demander un peu, hein, est-ce qu'ici, je suis à Lubumbashi, j'habite le quartier Kra, hein. Nous voyons parfois les étudiants, ils ont, disons, une commission des étudiants, ils sont venus, parce que nous sommes le proche, disons, le plus proche de l'université. Nous voyons les étudiants, ils viennent, disons, une délégation, ils viennent détruire la maison le plus proche. Maintenant, qui sera sanctionné? Parce que à qui est-ce qu'on va porter plainte? Au nom des étudiants ou bien qui?
Alors, ils viennent détruire des maisons érigées sur le site universitaire, dans les prolongements du site universitaire.
Disons, il y a à peu près 500 mètres.
Oui, mais parce qu'aujourd'hui, ça s'apprête à confusion. Il y a des maisons qui sont construites tout au long, tout autour du site universitaire, et l'université est en train de réclamer ce site. Et vous habitez sur ce site-là?
Non. Il y a ceci. Nous sommes à 500 mètres.
Voilà.
Nous sommes à 500 mètres
des universités. Alors, on comprend.
Il y a même des bordeaux des
bon, voilà.
À nous, sommes à 500 mètres de faire, disons, la description là. Okay. Ça ne va pas?
Oui, merci, Miguel. Alors, Guillaume Aléré, nous restons dans les deux hypothèses. Soit ce sont des maisons construites sur le site universitaire, dans le prolongement du site universitaire, ou soit des maisons qui sont dans un quartier lotis monodiforme et qui détiennent des maisons qui détiennent quand même des certificats d'enregistrement. Est-ce que dans l'un ou l'autre cas, il s'agit de destructions méchantes?
Oui, je voulais sentir même embarrasser l'auditeur Rigen par la question. Mais en réalité, je viens à la rescousse de l'auditeur pour dire qu'il a raison. Même si les constructions étaient faites sur un site considéré comme une extension du site universitaire, les étudiants n'ont pas le droit de se rendre justice. Donc ça, c'est exercer une justice privée. Et donc, par rapport à cela, ils sont poursuivables. Et donc, c'est l'État lui-même qui est censé dire, ici, vous l'avez occupé irrégulièrement. Et pour détruire, l'État doit envoyer ses agents en vertu d'actes qui sont faits par les autorités gouvernementales. Vous comprenez ici que les étudiants exercent une vengeance privée.
Et là, c'est encore une circonstance aggravante.
Et tout à fait. Et donc, s'il y a des gens à poursuivre, c'est d'essayer d'identifier quelques personnes, parce que c'est très difficile d'attraire comme ça toute une université, mais vous identifiez quelques mineurs, et puis vous portez plainte contre elles, et la justice va se saisir de ces personnes. Nul n'est autorisé à aller comme ça, à détruire des maisons au motif que la personne occupe irrégulièrement le site. C'est l'État lui-même qui doit dire, ici, vous pouvez occuper ici. Parce qu'il y a des sites qui, anciennement, même ici à l'université de Kinshasa, il y a beaucoup de terrains de l'université de Kinshasa qui ont été lotis et qui ont été accordés à des professeurs d'université, etc. Bon, vous n'allez pas dire non, nous savons que depuis Mgr Gillon, ceci a déjà toujours appartenu à l'université, nous allons détruire. Non, c'est un mauvais comportement, on ne peut pas l'encourager parce que nous voulons rester dans un état de droit.
Jean-Claude Ilunga de Kamina, vous êtes avec nous, bonjour. Jean-Claude Ilunga.
Question à notre invité.
Oui,
est-ce que quand on parlait de destruction méchante, quand par exemple un locataire a occupé une maison et qu'il aurait placé pour, par exemple, ajouter quelques épaules pour agrandir un peu le balcon, unilatéralement, sans que cela entre dans le frais de bail ou quoi, et que le jour qu'il voudra sortir de la parcelle, emporter ses épaules sans toucher au dédommagement de l'initial, c'est-à-dire sans toucher à la maison, et laisser les choses intactes. Est-ce que là, il y a destruction méchante?
Ben voilà, il y a des travaux qui ont été effectués, hein, disons en dehors du contrat d'ailleurs de bail. Est-ce qu'il peut s'agir de destruction méchante? Il est.
Bon, en principe, non. D'abord, c'est des travaux d'embellissement de la maison, sauf que dans les contrats, il faut noter qu'il y a des clauses, hein, qui exigent que pour toute modification à la maison, il faut avoir l'aval du bailleur. Et donc, lorsque vous le faites en violation du contrat, le bailleur a le choix, soit il demande la destruction des constructions qui ont été ainsi faites, ou si elles lui plaisent, il les endosse, elles deviennent à lui. Alors il faut faire attention à cette clause du contrat. Lorsqu'il est dit clairement que pour toute modification au lieu pris en location, il faut l'aval du bailleur, eh bien il faut d'abord solliciter cet accord. Et je comprends donc que le bailleur qui n'a pas donné cet accord, mais qui par après trouve que c'est joli, il endosse la construction. Si vous la détruisez, effectivement, il peut vous dire que vous n'aviez pas le droit de la détruire. Mais de là à dire qu'il y a destruction méchante, non. À notre avis, il n'y a pas destruction méchante, parce que la destruction méchante, nous avons donné des hypothèses, des dégradations, etc. Ça doit être apprécié par rapport à ce que le bailleur a construit. C'est par rapport à cela que l'on peut dire qu'il y a eu destruction ou pas.
Guilhem Aléré, nous rappelons que vous êtes juriste. Merci d'avoir accepté notre invitation et surtout d'avoir bien voulu réfléchir ensemble avec nous autour de cette question sur la destruction méchante. Quelles sont les sanctions prévues par la loi? Donc, nous rappelons à nos auditeurs qu'ils peuvent lire l'article 110 jusqu'à l'article 115, où ils auront, en tout cas, l'ensemble, ils vont se faire
garder
par rapport au code pénal, par rapport à cette question. Et là, ils auront tous les éléments. Une fois encore, merci et à très bientôt.
Merci à vous, Gilles Longuepo.
Okay.